Tu sais, je m'intéresse beaucoup à l'environnement.
Moi, j'aime qu'on me parle de la santé ou de l'éducation.
Et les questions de l'entrepreneuriat me préoccupent beaucoup.
Et surtout, tout ce qui touche à la protection de l'enfant m'intéresse beaucoup.
Justement, pour parler de tout ça, l'UNICEF et Radio Okapi ont préparé ces programmes. Le magazine Bana Okapi, pour vous, avec de la musique aussi.
Très heureux de vous retrouver sur la radio de la paix qui accorde la parole aux jeunes et plus jeunes. Le magazine Bana Okapi aborde aujourd'hui un sujet sur les violences basées sur le genre. Si c'est pour la première fois que vous entendez parler de ça, n'ayez crainte. Eh bien, la violence basée sur le genre désigne tout type d'actes préjudiciables perpétrés contre une personne ou un groupe de personnes en raison de leur sexe, de leur genre, de leur orientation sexuelle et ou de leur identité de genre, réelle ou perçue. Les violences basées sur le genre tiennent donc compte, entre autres, du harcèlement et harcèlement sexuel, de violences physiques, verbales, psychologiques, sexuelles, socio-économiques, domestiques et autres. Sachez que l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO, en collaboration avec l'ONG sénégalaise RAIES, a organisé du 28 au 30 août 2024 à Kinshasa un atelier de formation à l'intention de jeunes engagés sur les questions liées à la santé sexuelle et reproductive. Objectif poursuivi, apprendre aux participants le bon usage de la plateforme digitale Hello Ado, plateforme qui vise à fournir des informations nécessaires pour améliorer leurs connaissances en matière de santé sexuelle et reproductive, tout en limitant la désinformation dans ce domaine. Comment prévenir les violences basées sur les genres, VBG ? Comment impliquer les jeunes dans la lutte contre ce type de violence qu'on abrège souvent par le vocable VBG ou violence basée sur le genre? Élément de réponse dans cette belle émission que je vous recommande de suivre. Je suis Sarah Soumbela, la présentation de ce magazine. Dieudonné Nyangasa wa Nyangasa assure la mise en onde, un magazine coproduit par Plamedi Mbiyavanga, Grasson Vuzolo, Rachel Kessembangu, Ezekiel Mouzalia, André Kitenge, Etienne Lissumbu, Grévis Salomo, Guylaine Kassassia et Stanislas Diomi. Gisèle Cage réalise ce programme de Radio Okapi, financé par l'UNICEF, sous la supervision de Jean-Marc Matuakimo. Félélie Dijano.
Okapi. Encore plus d'infos.
Bienvenue à vous, chers auditeurs de Radio Okapi et amoureux du magazine Bana Okapi. Nous parlons de l'implication des jeunes dans la lutte contre les violences basées sur les genres, VBG. Alors, qu'entendez-vous par violences basées sur les genres ou VBG ? Stanislas Diomi et Arcel Kajoro nous proposent quelques éléments de réponse. Bonjour Arcel.
Bonjour Sarah. Bonjour Stanislas Diomi.
Bonjour Arcel Kajoro.
La violence basée sur le genre ou sexe spécifique est la violence dirigée spécifiquement contre un homme et une femme du fait de son sexe ou qui affecte les femmes et les hommes de façon disproportionnée. Les rapports hommes-femmes étant la plupart du temps régis par une relation de pouvoir inégale où les hommes ont un rôle social dominant, ce sont les femmes qui sont le plus souvent les victimes de ces types de violences. De façon générale, ces phénomènes s'expliquent par une inégalité patente entre hommes et femmes, souvent matérialisée par un rapport de force omniprésent, laissant place à des démonstrations de violence à l'encontre des femmes. C'est pourquoi la Convention pour l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes l'a définie comme tout acte de violence fondé sur l'appartenance au sexe féminin causant ou susceptiblement de causer aux femmes des préjudices ou des souffrances physiques ou psychologiques et comprenant la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire des libertés, que ce soit dans la vie publique ou la vie privée.
Dans ce cas, comment reconnaître une violence basée sur le genre ?
La violence basée sur le genre est l'une des violences de droit de l'homme les plus étendues. Elle peut adopter différentes formes, physiques, sexuelles, psychologiques ou encore économiques, et elle reconnaît ni frontières d'âge, de race, de culture ou de richesse ou d'emplacement géographique. Cette violence disproportionnée contre les femmes a lieu à la maison, dans les rues, dans les écoles, au travail et dans les camps de réfugiés lors des conflits et de crises. Elle se manifeste de différentes manières, allant des fléaux les plus répandus, des violences domestiques ou sexuelles aux pratiques destructives d'abus des femmes enceintes, tueries fondées sur les supposées valeurs morales et d'autres formes de fémicide.
Et comment éradiquer le phénomène ?
Des instruments régionaux et internationaux ont clarifié les obligations des États de prévenir, éliminer et condamner la violence contre les femmes et les filles. La Convention sur l'élimination de toutes les formes de violence faites aux femmes exige aux pays signataires de ladite convention de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'éradiquer la violence. Néanmoins, la continuité et la gravité de crimes commis envers les femmes et les filles démontrent qu'il s'agit bien là d'une pandémie globale aux proportions alarmantes. C'est aussi un défi majeur qui devait être surmonté avec l'aide de tous les compromis politiques et ressources nécessaires.
Et Arcel, qu'en est-il de la RDC ?
En RDC, Stanislas, plusieurs cas de violence dénoncés par les agences des Nations Unies. En mars dernier, au moins 17 cas de violence sexuelle basée sur le genre ont été répertoriés dans le regroupement Zabo de la zone de santé de Pandroma, au nord de Bounia, dans le territoire de Djougou. Ces chiffres ont été publiés mercredi 13 mars par les bureaux de genre de cette entité. Selon les activistes des droits de l'homme dans la zone, la dégradation de la situation sécuritaire qui perdure depuis 7 ans dans les territoires de Djougou affecte sensiblement les quotidiens des femmes dans la zone de Pandroma.
Mais qu'est-ce qui est fait pour venir en aide aux femmes victimes de VBG ?
En RDC, la MONUSCO travaille activement avec ses partenaires locaux, nationaux et internationaux pour mieux prévenir et protéger la population contre les violences sexuelles et basées sur le genre. La mission s'attelle également à prêter main forte au rétablissement des victimes de telles violences et à lutter pour que les crimes ne demeurent pas impunis. Une grasse tâche tout aussi ardue et au centre des préoccupations de la mission et du bureau genre demeure celle de jeter les bases sur une redistribution égalitaire du pouvoir favorable à la paix et à la stabilité du pays à travers la représentation accrue des femmes dans tous les secteurs et à tous les niveaux, une législation favorable à l'équité des hommes et des femmes et les remplacements des pratiques traditionnelles violentes et discriminatoires. Certaines organisations locales luttent également contre ces phénomènes.
Merci Arcel Kajourou.
Merci beaucoup Stanislas Diomi.
À vous, Sarah Sumbela.
Merci à vous, Stanislas et Arcel. Alors, quel est l'entendement des jeunes Congolais en général et Kinou en particulier sur ce concept des VBG ? Grâce au réseau, on a rencontré quelques jeunes de Kinshasa. Chacun d'eux a son niveau de compréhension sur les violences basées sur les genres. On les écoute.
Dans notre milieu, j'ai connu beaucoup de violences que j'ai vues, j'ai même été victime. Il y a parfois des gens qui se battent sans raison. Ils ne savent même pas pourquoi je suis en train de me battre. Mais ils se battent seulement. Il y a des injures qui se passent. C'est parfois insupportable. Mais tu n'as pas de choix parce que tu es sur place, tu es censé à l'écouter. Il y a des violences morales. Il y a parfois des professeurs qui incitent les élèves sans cause, sans pourtant savoir pourquoi je l'ai incité.
Premièrement, je dirais oui, je connais les violences basées sur les genres. Il y a plusieurs genres de violences. Nous avons, par exemple, les harcèlements, les violences sexuelles, les violences qui peuvent détruire notre morale, physique, psychologique. Comme par exemple le cas d'insultes. Ça se fait plusieurs fois et puis dans des différents milieux. Ils s'insultent donc des insultes insupportables, des insultes qui ne sont pas polies, qui ne sont pas éduquées en fait, basées sur l'éducation. De bagarres inutiles, sans cause en fait. Ils disent parfois dire des bêtises.
Oui, moi je connais des violences basées sur les genres. Nos mamans africaines nous insultent trop. Ils nous insultent. Ils ne disent même pas la vérité. Ils commencent d'abord à vous décrire. Donc vous vous sentiez ennuyé. Surtout nos taximens. Ils insultent très mal. Un taximan de trois pneus. Généralement, je vois beaucoup de chauffeurs de trois pneus insultent trop. Ils insultent trop, donc vous avez entendu d'autres insultes. Hein. Donc, de bêtises seulement.
Oui, je connais les violences basées sur les genres dans les milieux quotidiens, comme dans les rues, dans les endroits bondés, au marché, dans les bus, partout. Et j'ai même été victime de harcèlement plusieurs fois. Presque partout, et je pense que c'est plutôt un truc qu'on doit arrêter. Au Congo, c'est trop, et on n'en peut plus.
En fait, j'ai connu la violence basée sur les genres. Il y a plusieurs sortes de violences. Par exemple, moi, j'ai parlé un peu sur la violence morale. Il y a d'autres parents, même dans la maison, vous êtes là à la maison, il t'a dit quelque chose, il pense juste que non, il a dit, c'est passé, non. Ça reste dans la mémoire de l'enfant. Et ça va approfondir donc quelque chose dont l'enfant pourrait être affecté dans l'avenir. Et puis, c'est pour cela que j'ai demandé aux mamans, aux parents, d'arrêter de faire des injures aux enfants. De violence, des insultes, c'est pas bien. Et surtout dans des avenues, il y a toujours là des gars là. Tu vois, si tu passes, ils t'appellent. Si tu refuses, ils disent, oh non, toi, tu verras, je te ferai ceci, je te ferai cela. Ce n'est pas vraiment bien. Il faut qu'ils puissent arrêter ces genres de violences.
Bon, moi, j'ai juste à parler sur la violence morale. En fait, c'est même quand un enfant part à l'école et que c'est un professeur qui l'insulte à chaque fois. Il y a d'autres enfants qui ne supportent pas ce genre de choses et qui leur met, donc, il met ça à la tête. Il se dit que non, moi, le professeur dit que je suis toujours bourrique, que je ne connais rien. Genre, il se démoralise, il n'a plus ce courage encore de bien travailler. Et moi, je ne prends pas compte de ça. Je ne supporte pas ça. Faut traiter les enfants d'une autre manière. Ce genre de violence doit s'arrêter. Oui, je connais des violences basées sur le genre, mais je me replace par le de violences basées sur la femme. De notre côté, là, il y a un homme qui tabasse une femme sans pitié. Donc, sa femme, mais il le tabasse. Ça, c'est blessant de voir ça. Chaque fois que je vois ça, donc, je suis triste. Je vois pourquoi il le tabasse sans raison, sans... Il n'y a même pas de raison, mais cet homme-là le tabasse sans avoir même pitié. Donc, faut arrêter ça. Donc, c'est ce qui me rend triste à chaque fois que je vois ça. Donc, faut arrêter.
Effectivement, je connais plusieurs types de violences, mais je vais plus me focaliser sur la violence psychique ou psychologique ou encore morale. En fait, par exemple, lorsque un enfant est menacé par quelqu'un, par exemple un voleur, je sais pas, un criminel, lorsqu'il le menace, cela pourra avoir des conséquences néfastes lorsqu'il va grandir. Il y a un autre exemple, il y a certains enfants qui ont été maltraités par leur tuteur. Et du coup, lorsqu'ils grandissent, ils font la même chose avec leurs enfants eux aussi.
Je connais plusieurs types de violences liées au genre. Je vais plus me focaliser sur des violences. Je commencerai par les violences physiques. Cela est récent dans notre société actuelle. On voit des parents en train de maltraiter leurs enfants, ou soit des oncles ou des tantes en train de maltraiter leurs neveux et nièces, parce que ce ne sont pas leurs enfants biologiques. Or, cela ne cadre pas avec l'éducation des enfants. Quand un enfant déjà se prépare pour aller à l'école et que les parents les forcent à faire quelque chose, ou soit les tabasser en cours de route, ça les démoralise déjà. En plus, ça démoralise encore plus quand tu le fais devant ses potes. L'enfant voit déjà que ma mère m'a humilié devant mes amis. Quand j'irai à l'école, c'est sur ça qu'ils vont se baser. Deuxièmement, je vais me baser un peu plus sur les violences sexuelles. Avec la société actuelle, on voit que l'homme cherche un peu plus à s'abuser des filles, surtout dans le milieu éducatif. C'est un peu plus récent avec les professeurs, avec nos collègues filles en classe. Les professeurs pensent que les filles qui viennent à l'école sont leurs femmes. Donc, ils doivent arrêter avec ces systèmes-là, ils doivent se concentrer à donner cours et laisser les enfants concentrer leur matière puis devenir des personnes dans la société.
Okapi. Okapi.
Vous avez écouté les jeunes. Tournons-nous cette fois-ci du côté des parents. Comment les parents de Kinshasa font-ils pour protéger leurs enfants, surtout leurs filles, du harcèlement sexuel, de viol et autres types d'abus auxquels elles peuvent faire face? Quelques parents ont répondu au micro de Grâce en Voisolo.
Souvent le soir à table, ensemble, je leur dis, je leur apprends de bonne manière, évitez d'exposer votre corps, surtout vous qui êtes jeune fille. Votre corps ne doit pas exposer à tout le monde. Hein? Devant les petits frères, en tout cas, la façon de s'asseoir, il faut bien le faire, sinon ce sont des hommes. On ne sait jamais. Il y a des conséquences très graves entre vous. Alors évitez ces accoutrements-là pour ne pas causer trop de dégâts dans la vie. Et c'est ce que je fais souvent le soir avec les enfants. Après avoir mangé à table, je le fais.
Moi je dirais ceci, qu'un bon parent, c'est celui qui a toujours eu le temps de parler aux enfants. Il faut toujours avoir ce temps-là. Et une fois si on a cette occasion, surtout aux filles, il faut marteler ceci. Il faut leur dire que l'habillement chez nous, en tant qu'Africains, doit être décent. Il ne faut pas suivre les Occidentaux et peut-être se mettre, parce qu'eux peuvent se mettre en cache-sexe. Devant les parents, ça ne dit rien. Mais chez nous, vraiment, ça ne passe pas. Et prenez aussi nos coutumes mères commençaient nos mamans s'habiller. Nos mamans essayaient de couvrir leur corps. Et je peux ajouter sur leur caractère aussi, une fille, ce n'est pas celle-là qui doit être légère et s'exposer devant les hommes. Il faut avoir du caractère. Je pense que c'est ce que je peux dire à mes filles.
Moi, je pense que le moment est difficile. On doit, les parents, beaucoup de parents sortent le matin, ne reviennent que le soir. Parfois, il y en a qui ne retrouvent les parents, les enfants qui sont endormis. Et ils le font tous les jours. Mais moi, je pense qu'il faut disposer d'un temps pour parler aux parents et pour parler aux enfants. Leur dire que non, et vous êtes déjà à la mesure d'être conseillé. Parce qu'il y a des problèmes qui peuvent toucher à votre personne. Vous devez être poli, vous devez bien vous habiller pour ne pas exposer les autres. Parce que l'enfant, quand il est mal habillé, c'est d'abord la famille qui doit être interpellée. Dehors, on dira que ces enfants viennent de quelle famille. Et tout ça, ça donne pas bonne image des parents. Et moi, je pense que les enfants... On doit leur parler, on doit se parler aussi. Ne pas faire la discrimination entre filles et garçons. Parfois, il y a des travaux de la maison qui ne sont pour eux réservés seulement aux filles. Mais les garçons peuvent aussi les faire. Quand on les fait, parfois on dit non, c'est réservé aux filles. Faire des vaisselles, c'est pour les filles. Mais les garçons sont là. Il faut qu'il y ait aussi égalité. Faire être partiel pour ne pas blesser les autres. Voilà un peu ce que je peux dire.
Okapi. Okapi.
Après Kinshasa, cap sur Butembo, où nous accueille Maître Magui Panza, chargé de vulgarisation à l'organisation de femmes juristes pour les droits de la femme et de l'enfant basée à Butembo. Elle affirme qu'il y a beaucoup de cas de violence basés sur les genres à Butembo. Sa structure travaille dans la sensibilisation et la réponse pour combattre ces violences. Elle est au micro de Stanislas Diumi.
Maître Magui Panza, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes juriste chargé des vulgarisations à l'organisation de femmes juristes pour le droit de la femme et de l'enfant basée à Butembo. Aujourd'hui, nous parlons de violences basées sur le genre. Avez-vous déjà de cas de violences basées sur le genre à Butembo, là où vous êtes pour l'instant?
Oui, nous en avons et nous sommes une organisation qui travaille pour la promotion et la défense des droits de la femme et de l'enfant. Et nous recevons plusieurs cas de violences basées sur le genre.
Et quelle est votre structure pour préserver le jeune de ce phénomène?
Oui, pour préserver le jeune de ce phénomène, nous travaillons dans deux grands volets. Nous travaillons dans la prévention des violences basées sur le genre, mais aussi dans la réponse. Et dans la prévention, nous menons plusieurs sensibilisations dans des groupes structurés, des groupes bien structurés comme les mutuelles des jeunes et dans les écoles, à l'école primaire, secondaire, même dans les institutions supérieures et universitaires et dans les églises, dans plusieurs corporations même des jeunes, nous menons des sensibilisations sur des violences basées sur le genre. Et nous avons aussi utilisé une stratégie, donc à part des émissions radio, à part et aussi des conférences, des sensibilisations des masses, et nous avons institué ce que nous appelons les comités de protection. Nous avons des comités locaux de protection et les comités scolaires de protection. Puisque les violences se commettent dans la communauté, les violences se commettent dans les institutions, les établissements scolaires ou universitaires. Et pour préserver ces jeunes, nous y allons, nous organisons des sensibilisations, mais nous instituons des comités de protection. Un comité de protection qui est chargé de sensibiliser les collègues, les autres jeunes, élèves ou étudiants sur les violences basées sur le genre, mais aussi identifier et les cas des violences qui se commettent dans ces institutions-là. Et c'est une façon d'impliquer ces jeunes et dans la lutte contre les violences basées sur le genre, et pour qu'ils sachent que c'est une question aussi qui les concerne et qu'ils ont un apport à donner pour diminuer ou pour en finir avec des violences basées sur le genre. Un comité de protection scolaire est composé de 10 personnes et 5 filles et 5 garçons, mais aussi qui sont accompagnés par un enseignant. Bien sûr, ce ne sont pas dans toutes les écoles puisqu'on ne saura pas et nous y allons progressivement. Mais et aussi des comités locaux. Ce sont les membres influents de la communauté et dont le jeune, même les adultes, et qui sensibilisent sur les violences basées sur le genre selon les contextes et de chaque milieu. Nous intervenons beaucoup à Butembo, à Beni, dans le territoire de Butembo et dans le territoire de Beni, où nous avons des points focaux. Et à part ça, nous concevons des outils très simples, des dépliants, des affiches, donc des boîtes à images pour illustrer violences qui sont plus courantes dans la communauté scolaire. Et ces affiches, nous les distribuons aux élèves et facilement, même sans lire, on peut voir ce que ça signifie quand on voit des images et d'une jeune fille qui est peut-être victime du harcèlement sexuel de la part d'un enseignant ou de la part d'un autre, de son collègue. Et là, on peut voir que voilà ce qui est interdit par la loi, sans même lire. Donc, et c'est tant d'autres stratégies, nous les utilisons. Mais aussi, et nous avons vu avec des scénettes ou des théâtres. Là, c'est au niveau surtout des écoles secondaires. Puisque là, ils font les monitoring, ils savent, voici les violences et dont sont victimes les jeunes filles, voici les violences dont sont victimes des jeunes garçons, de la part des autorités scolaires ou de la part des collègues. Et après ça, nous les concevons sous forme de scénettes que les élèves eux-mêmes vont jouer pour sensibiliser leurs collègues. Et là, on sait que, voilà, quand vous êtes à face de tels comportements, c'est une violence que vous devez dénoncer. Voilà, en bref, dans la prévention, ce que nous faisons.
Et Maître Magui Panza, en tant que juriste, que prévoit la loi par rapport aux auteurs de violences basées sur le genre?
Oui, et il n'y a pas une loi spécifique sur les violences basées sur le genre. Et vous savez que c'est depuis 2006 que notre pays et au moins a été doté de la loi sur les violences sexuelles. Ce sont 16 formes, mais aussi de la loi sur la procédure en matière de violences sexuelles. Or, les violences basées sur le genre sont vraiment englobantes. Il y en a plusieurs types. Et dans notre pays, nous avons les lois qui répriment telle ou telle violence. Nous avons d'abord la loi sur les violences sexuelles qui est vraiment partie intégrante du code pénal. Et ça dépend de la façon dont la violence s'est produite. C'est selon que le type de violence dont on a été victime, et c'est là nous voyons et qu'est-ce qui est prévu dans la loi. Il s'agit du viol. Que prévoit la loi et pour les fractions de viol? Et tout le monde ici le sait, tous les enfants le savent, que et de 5 à 20 ans, la loi prévoit 5 à 20 ans. Et s'il s'agit de viol,
5 à 20 ans de prison. Violences,
des prisons. Et bien sûr, il y a même des circonstances qui aggravent, mais ça, c'est la peine vraiment ordinaire. Et donc, selon que la violence se présente, là, c'est la loi qui intervient. Mais il n'y a pas une loi spécifique, une loi spéciale pour les violences basées sur le genre.
Alors, l'UNESCO organise une formation pour les jeunes sur l'utilisation d'une application nommée Hello Ado. Cette application développée par l'UNESCO en partenariat avec l'ONG RAES lutte contre les violences basées sur le genre et aide les jeunes et les adolescents à faire face aux problèmes liés à la santé sexuelle et reproductive. Connaissez-vous cette application, Maître Magui?
Bon, et pas du tout, mais j'ai entendu parler de cette application et que je n'ai pas à vraiment encore exploiter, mais c'est dans le cadre toujours de la prévention, donc la sensibilisation sur les violences basées sur les genres, mais aussi sur la santé sexuelle et reproductive. Puisque quand nous parlons de violences basées sur les genres, et on ne peut pas se passer de la santé sexuelle et reproductive. Mais vous savez que chez nous, hein, parler de la santé sexuelle semble être un tabou, et aux enfants et aux jeunes, et il y a maintenant et des stratégies qui sont utilisées pour que ces enfants accèdent aux informations, des informations fiables bien sûr. Et aujourd'hui même dans les écoles, il y a des cours qu'on appelle l'éducation à la vie où on en parle. Mais ici chez nous, des questions qui sont considérées comme tabous, les jeunes peuvent se ressourcer à partir de cette application pour voir, voilà, à un certain âge, voilà ce qui peut vous arriver, ou bien vous êtes en face de tel ou tel comportement, voici ce que vous pouvez faire. Mais c'est vraiment une application qui peut aider les enfants et le jeune à se ressourcer ou à en avoir plusieurs informations sur les violences basées sur les genres et la santé sexuelle et reproductive. Et puisque si on ne fait pas attention, et ces gens risquent de se former dans la rue et avoir des fausses informations qui sont dangereuses pour leur vie de jeune.
Maître oui. Magui Panza, je rappelle que vous êtes juriste chargé des vulgarisations à l'organisation de femmes juristes pour le droit de la femme et de l'enfant basée à Butembo. Nous vous disons merci d'avoir répondu à toutes nos questions.
Je vous en prie.
Tu sais, je m'intéresse beaucoup à l'environnement. Moi, j'aime qu'on me parle de la santé ou de l'éducation.
Et les questions de l'entrepreneuriat me préoccupent beaucoup.
Et surtout, tout ce qui touche à la protection de l'enfant m'intéresse beaucoup.
Justement, pour parler de tout ça, l'UNICEF et Radio Okapi ont préparé ces programmes. Le magazine Bana Okapi, pour vous, avec de la musique aussi.
Bienvenue à ce que nous prenons cours. Sachez que vous êtes sur Radio Okapi, à l'écoute de votre magazine Bana Okapi, magazine de jeunes et plus jeunes qui aborde des sujets liés à l'éducation, la santé, l'environnement et la protection de l'enfant. Nous parlons des violences basées sur les genres en abordant le volet sur l'implication des jeunes dans la lutte contre ces types de violences qui font beaucoup de victimes. En effet, l'UNESCO, en partenariat avec l'ONG RAIES, ont développé une application nommée Eloado pour promouvoir la santé sexuelle et reproductive des jeunes, lutter contre les violences basées sur les genres et aider les jeunes et adolescents à lutter contre les VBG. La violence basée sur les genres désigne tout type d'actes préjudiciables perpétrés contre une personne ou un groupe de personnes en raison de leur sexe, de leur genre, de leur orientation sexuelle et ou de leur identité de genre réelle ou perçue. Dans cette seconde partie de votre magazine, nous allons faire le tour de quelques villes de la RDC, surtout dans la partie Est, où on note plus de cas de VBG. Nous serons donc à Bukavu, puis à Goma, pour accorder la parole aux responsables des structures qui luttent contre les VBG. Sachez que vous aurez aussi beaucoup d'infos sur l'application Eloado avec l'expert en projet digital à l'ONG RAIES. À la présentation de ce magazine, je suis Sarah Sumbela. Dieudonné Nyangasa Wanyangasa assure la mise en onde. Gisèle Cage réalise ce programme de Radio Okapi financé par l'UNICEF. Jean-Marc Matouaki Mofelele Dijano le coordonne.
Le 2 septembre, c'est la rentrée scolaire. L'école primaire publique est gratuite. Enfants, filles et garçons, tous à l'école. Pour plus d'infos, envoyez rentrée au 101.
Ceci est un message du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté en partenariat avec l'UNICEF.
Comme promis, notre voyage démarre effectivement dans la partie est du pays et c'est à Goma que nous atterrissons en disant Jambo à tous ceux qui nous suivent sur la 95.5 FM depuis Goma, capitale du Nord Kivu. Madame Passy Mubalama est coordonnatrice d'action et initiative de développement pour la protection de la femme et de l'enfant Aide Profène. Cette structure travaille plus dans des cas de déplacés où les cas des VBG sont vraiment fréquents. La situation humanitaire en RDC est marquée par les conflits armés, des déplacements massifs de la population. Cette situation expose la population vulnérable, en particulier les jeunes et les femmes, à des violences basées sur les genres, y compris de violences sexuelles. Madame Passy Mubalama est au micro de Stanislas Diomi.
Bonjour madame.
Bonjour.
Madame Passy Mubalama, aujourd'hui, Bana Okapi aborde le sujet sur les violences basées sur le genre. Qu'est-ce que c'est?
En fait, la violence basée sur le genre, c'est une violence qui peut toucher l'homme ou la femme. Parce que très souvent, quand on parle des violences basées sur le genre pense que c'est une violence qui touche uniquement les femmes. Mais c'est une violence qu'on peut subir du fait de son genre. Et le genre, s'il faut l'expliquer, c'est cet ensemble d'attributions sociales que la société reconnaît aux hommes et aux femmes. Et la violence basée sur le genre peut être une violence qu'on subit par le fait qu'on soit un homme ou une femme sur base des attributions sociales que nous avons.
Et dans la structure action et initiative de développement pour la protection de la femme et de l'enfant, avez-vous déjà eu de cas de violence basée sur le genre?
Oui, effectivement. Aide Profène travaille beaucoup dans différents camps des déplacés ici au Nord Kivu, où nous travaillons beaucoup sur les violences basées sur le genre et il y a beaucoup de jeunes qui sont victimes des violences basées sur le genre. Parfois, selon les typologies des violences, ça peut être des cas d'abus et exploitation sexuelle, parce que la situation humanitaire en RDC est marquée par des conflits armés, des déplacements massifs des populations, et malheureusement, cette situation expose les populations vulnérables, en particulier les jeunes et les femmes, à différents types de violences basées sur le genre, y compris des cas de violences sexuelles.
Et quel genre de violences basées sur le genre sont les plus fréquentes chez les jeunes?
Alors, chez les jeunes, dans différents camps où nous travaillons, il y a beaucoup de cas de viol, des cas d'agression sexuelle, et surtout des cas d'abus et exploitation sexuelle, parce que le Nord Kivu, en raison de son contexte de conflit prolongé, a vu une augmentation significative des cas de violences sexuelles et d'autres formes. Et les cas d'abus et exploitation sexuelle sont trop fréquents, mais aussi des cas de mariages forcés et précoces, mais surtout c'est qu'on appelle aujourd'hui le sexe de survie. Ça, c'est surtout du côté des jeunes filles qui, à cause de la vulnérabilité, la précarité dans différents camps des déplacés où la situation est vraiment très difficile, les jeunes filles n'ont pas d'autre choix que de recourir à cette pratique des sexes de survie qui malheureusement a des conséquences énormes sur la santé psychologique et même la santé physique des jeunes, surtout avec les grossesses indésirables et les maladies sexuellement transmissibles.
Et les jeunes de quel âge sont le plus exposés par violences basées sur le genre?
Alors, les violences basées sur le genre touchent différentes âges, mais pour les jeunes, c'est en tout cas des 14 à 35 ans, si on reste dans cet âge-là. Alors, il y a beaucoup des cas qu'on retrouve dans cette tranche d'âge 14 à 35 ans pour la plupart des cas.
Donc la tranche d'âge la plus touchée par les violences basées sur le genre ou VBG, c'est de 14 à 35 ans.
14 à 35 ans, oui.
Et que fait votre structure pour préserver le jeune de ce phénomène?
Alors, Aide-Profène travaille dans différents camps des déplacés. Notamment, on met en œuvre un projet avec le HCR. Ça, c'est le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Le projet sur le renforcement des mécanismes communautaires de prévention et réponse face aux violences basées sur le genre dans différents camps. En termes de réponses, nous apportons une prise en charge psychosociale pour les survivantes des cas des viols et d'autres types des violences basées sur le genre. Mais là, pour les cas des viols, on doit faire, par exemple, des référencements au niveau des structures médicales dans les 72 heures pour éviter d'autres conséquences néfastes dues au cas des viols. On fait la prise en charge psychologique. On a une équipe des psychologues et d'assistantes psychosociales qui accompagnent psychologiquement. Très souvent, quand on travaille sur les questions de viol, on a tendance à oublier la prise en charge psychologique, alors que cette prise en charge permet aux survivantes de surmonter les traumatismes et de reconstruire leur vie. Et cela nécessite une intervention immédiate, un soutien beaucoup plus urgent pour aider les survivantes à réduire l'impact du traumatisme et à prévenir les développements d'autres troubles beaucoup plus complexes. On fait des thérapies individuelles et des thérapies de groupe, mais on essaie vraiment d'aller vers une approche multidimensionnelle pour accompagner la survivante. On travaille aussi dans la promotion de la masculinité positive, parce que quand on veut lutter contre les violences basées sur le genre, on ne travaille pas que avec les femmes ou les jeunes filles. On travaille aussi avec les hommes dans ce programme sur la promotion de la masculinité positive, où on veut emmener l'homme à accompagner l'autonomisation de la femme et la lutte contre les violences basées sur le genre. Dans le camp, on a aussi un programme qu'on appelle Girl Shine. Ça, c'est un programme où on travaille vraiment à côté de jeunes filles pour développer leurs compétences de vie et vraiment leur permettre d'être autonomes afin de prévenir tout ce qui peut avoir comme cas d'abus et exploitation sexuelle et surtout cette pratique de sexe de survie.
Et Madame Passy Moubalama, je rappelle que vous êtes la coordonnatrice de la structure Action et Initiative de Développement pour la Protection de la Femme et de l'Enfant. Alors, nous voulons savoir, est-ce que les violences basées sur le genre, c'est fait dans les cas des déplacés comment? C'est entre les jeunes dans un même camp des déplacés ou il y a des tierces personnes aussi qui viennent fréquenter ces jeunes-là et en abuser?
Oui. Alors, les auteurs des violences basées sur le genre sont diverses. Parfois c'est dans les camps des déplacés même, parce que les camps des déplacés, je dois le dire, ne sont pas des milieux sûrs où on peut ne pas être exposé aux violences basées sur le genre. Donc dans le camp des déplacés, il y a des auteurs parmi les déplacés eux-mêmes, mais surtout en dehors des camps des déplacés, notamment lorsque les femmes et les jeunes filles vont rechercher de la nourriture dans les parcs autour ou collecter du bois de chauffe, là, elles tombent sur, par exemple, des hommes armés non autrement identifiés, parfois des militaires de l'armée congolaise ou Oui, des personnes en tout cas non autrement identifiées. Et ça, c'est vraiment dommage parce que dans la situation de déplacement, le gouvernement devait se rassurer que les déplacés soient mieux protégés dans le camp et en dehors de camp. À un moment, même à Goma, jusqu'à maintenant, il y a une surmilitarisation dans différents camps des déplacés, et ça, c'est en violation de tous les principes humanitaires qui nécessitent que les camps des déplacés soient les milieux les plus sécurisés. Donc, on fait beaucoup de plaidoyer pour que ces camps soient mieux sécurisés, mais oui, les auteurs sont très variés.
Nous poursuivons avec Madame Passy Moubalama, coordinatrice de Aide de Profène, une structure qui lutte contre le VBG. Pour elle, il est très difficile d'éradiquer ce phénomène de VBG compte tenu de la guerre que fait face notre pays. Cette guerre, malheureusement, renforce la vulnérabilité et l'exposition, que ce soit des hommes et femmes, au risque de violences basées sur les genres. Elle est encore au micro de Stanislas Diomi.
Et quel mécanisme mettez-vous en place pour éradiquer ou diminuer ce phénomène auprès des jeunes?
Alors, pour éradiquer le phénomène, c'est vraiment une question très complexe au vu de la situation que traverse le pays actuellement avec la guerre, la rébellion du M23 qui fait que les déplacements massifs des populations est toujours là. Donc il y a beaucoup des milliers de déplacés dans différents camps aujourd'hui, et cette présence massive des déplacés, la proximité dans le camp des déplacés, malheureusement renforce aussi l'exposition aux différents risques des violences basées sur le genre. Pour éradiquer la violence, il faut d'abord qu'on arrive à mettre fin à cette guerre qui malheureusement renforce la vulnérabilité et l'exposition, que ce soit des hommes ou des femmes, au risque des violences basées sur le genre. Mais après, dans différents camps, il y a toutes les sensibilisations qui sont menées, la mobilisation avec les femmes et avec les hommes pour pouvoir arriver à dénoncer les auteurs des violences basées sur le genre. Le travail avec la justice, parce que le fait que la justice n'arrive pas à sanctionner tel qu'il le faut les auteurs des violences basées sur le genre renforce aussi toutes les questions par rapport à l'impunité des auteurs. Donc il faut travailler avec les communautés, avec les institutions juridiques et judiciaires au niveau de la RDC, mais avec le gouvernement pour améliorer la situation sécuritaire de façon globale. On travaille beaucoup avec les hommes parce que nous croyons que la violence basée sur le genre ne touche pas que les femmes. On est tous concernés, hommes et femmes, et pour la combattre, il faut travailler sur les normes sociales, malheureusement, qui renforcent les inégalités de pouvoir entre les hommes et les femmes, et les violences basées sur le genre.
Et que fait l'État congolais pour vous accompagner dans cette lutte?
L'État congolais, je dirais, il y a la division provinciale du genre qui accompagne les organisations au niveau de la coordination, mais on pense qu'il y a une nécessité d'une forte implication. Aujourd'hui, on a vu qu'il y a la FONAREV qui est là pour essayer d'apporter une réponse par rapport à tous les crimes, pas seulement des violences sexuelles, mais je pense que le gouvernement devait beaucoup plus renforcer par rapport à la sécurité, parce que on ne peut pas lutter contre les violences basées sur le genre lorsque la situation sécuritaire dans la province du Nord Kivu est telle qu'elle est maintenant, lorsque Les populations dans le camp n'arrivent pas à trouver de la nourriture lorsque certains déplacés meurent parce qu'ils ont faim. Pour lutter contre les violences basées sur le genre et surtout le sexe des survies, il faut que le gouvernement apporte des réponses. C'est vrai que ça peut être difficile de donner de la nourriture à tous ces milliers de personnes chaque jour, mais je pense que le gouvernement devait faire en sorte que cette guerre s'arrête et que les populations puissent retourner dans leurs milieux respectifs. Dans ces milieux, ils vont cultiver, ils vont assurer l'éducation des enfants et éviter cette oisiveté pour beaucoup dans différents camps des déplacés.
Avez-vous un message à lancer aux personnes qui subissent les violences basées sur le genre, surtout ceux qui subissent ou qui pratiquent le sexe de survie? Et quel message vous avez pour eux?
À ceux qui pratiquent le sexe de survie, c'est vraiment triste.
Parce qu'ils courent plusieurs risques que vous avez énumérés, entre autres des grossesses précoces, des maladies sexuellement transmissibles.
Oui. Alors, le sexe de survie, on devait carrément ne pas y recourir parce que c'est sacré. Le corps de la femme devait être protégé et en aucun cas on devait vendre son corps pour avoir à manger. À ces femmes-là, je pense qu'elles doivent développer d'autres mécanismes, notamment des petites activités génératrices de revenus, vraiment d'autres petits travaux qui peuvent remplacer le sexe de survie. Mais moi, je ne peux pas pour l'instant condamner ces personnes qui recourent à cette pratique parce que c'est la seule option qu'elles ont pour le moment. Mais en tant qu'organisation et aussi le gouvernement, on doit tout faire pour leur protection, pour faire en sorte que elles aient d'autres alternatives. Et d'autres alternatives, c'est avoir de quoi manger, c'est avoir de la nourriture, c'est pouvoir aller à l'école, être à l'abri de cette pratique qui est néfaste sur le plan psychologique pour les femmes. Je pense que pour elles, elles doivent chercher d'autres mécanismes, d'autres solutions, mais dans le contexte de déplacement, c'est très compliqué au vu de tous les risques qu'elles courent. Oui, donc je peux appeler les organisations, d'autres organisations, à part Aide Profaine, à vraiment avoir un regard particulier sur cette question qui touche beaucoup et qui malheureusement affecte psychologiquement. Parce que imaginez une femme qui, pour avoir à manger ou pour nourrir son bébé, elle doit recourir au sexe de survie. C'est inacceptable. Le gouvernement et les organisations devaient agir le plus vite pour pouvoir arrêter cette situation.
Madame Passy Moubalama, nous vous disons merci d'avoir répondu à toutes nos questions.
Merci, c'est moi qui vous remercie.
Après Goma, nous allons à Bukavu, où Dr Niema Rukungunadine, gynécologue obstétricienne, nous attend. Médecin directeur adjoint du HZR Panzi, chargé de la prise en charge holistique de survivants, VBG, nous parle de son travail au sein de la structure de lutte contre les VBG du HZR Panzi. C'est Stanislas Diomi qui l'a joint au téléphone.
Dr Niema Rukungunadine, bonjour.
Bonjour, Monsieur Stanislas.
Vous êtes gynécologue obstétricienne, médecin directeur adjoint de l'hôpital général de référence de Pandi. Aujourd'hui, Bana Okapi traite le sujet sur les violences basées sur les genres. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces concepts?
D'abord, nous devons dire que les violences basées sur les genres, en fait, c'est une réalité. Ce n'est pas quelque chose d'externe, mais c'est une réalité, que ce soit de manière générale dans notre pays, mais aussi spécifiquement nous au niveau de la province du Sud-Kivu et dans notre hôpital. C'est vrai que la question du viol est une question parmi les violences sexuelles, mais il y a aussi des violences basées sur le genre qui sont vraiment répandues, et ça à tous les âges et dans notre milieu énormément, c'est vraiment une réalité.
Et au Sud Kivu, quel genre de violences basées sur le genre sont les plus fréquentes chez les jeunes?
Chez les jeunes spécifiquement, on va retrouver d'abord les violences physiques, énormément des cas de violences physiques. Nous allons retrouver aussi beaucoup de déni des ressources, c'est-à-dire qu'une personne en fait est privée de manière tout à fait volontaire des ressources, que ce soit des moyens financiers, économiques. Et ça concerne des jeunes femmes mariées ou qui vivent avec de compagnons, qui vont peut-être travailler mais qui ne peuvent pas jouir du fruit de leur travail, ou qui ne peuvent pas en fait bénéficier de tout ce dont elles ont besoin comme partenaire ou comme épouse de cet homme-là. On a les jeunes orphelins, par exemple, qui vont avoir ce déni de ressources, qui vont être victimes de ces cas de déni de ressources pour ne pas être scolarisés, par exemple. Les parents sont morts, le père ou la mère ou les deux à la fois peuvent être morts. Et finalement, le jeune qui est placé dans la famille, chez un oncle, une tante ou un membre de famille, ne va pas aller à l'école, ou alors est obligé, en fait, via certains autres travaux qu'on va lui faire payer pour que l'enfant puisse bénéficier d'un ou l'autre, en fait, des choses dont il a les besoins, les basiques. Rien que pour manger, rien que pour se vêtir, se faire soigner, étudier, ça c'est des cas qu'on a, mais aussi beaucoup de cas de violences psychologiques. Parmi les cas de violences basées sur le genre, des violences psychologiques chez les jeunes, filles ou garçons, tout âge confondu en général, parfois très souvent dues à la pauvreté, au chômage, qui font que des jeunes vont être complètement discriminés en fait dans les familles, discriminés dans la communauté. Parfois les jeunes vont subir des chantages à la recherche du travail. Ça c'est parmi les violences psychologiques dont ils vont subir pour chercher du travail. On lui fait du chantage pour telle ou telle autre chose pour avoir tel bénéfice, et ça c'est les cas en fait typiques que nous avons en général dans notre milieu.
Et à l'hôpital général de référence de Panzi, quel âge plus exposé à ce genre de violence basée sur le genre?
Ça, on va dire déjà que tous les âges peuvent être concernés. Mais en général, nous allons partir, il y a le bas âge, nous allons répartir. Parfois, nous allons chez les jeunes et les mineurs. On a souvent des mineurs parmi les orphelins ou les enfants qui sont abandonnés, orphelins soit d'un ou de deux parents. C'est généralement, on va aller même très très bas, à moins de 10 ans, 8 ans, on a les plus jeunes cas de violence basée sur les genres. C'est un cas d'environ 5 ans où l'enfant, par exemple, a été brûlé des mains parce que l'enfant s'est servi des bananes alors qu'il vivait avec sa marâtre. Vous voyez, ça c'est le plus jeune âge. Et le plus grand âge, aujourd'hui par exemple, nous avons un âge de 50 ans pour une dame qui est complètement perturbée parce que, en fait, reniée par sa maman, étant donné que c'est une jeune femme qui est issue du viol. Malgré tout ce qu'elle a fait dans la vie, mais elle continue à être victime de cela. Mais de manière générale, donc nous allons autour de la grande majorité, autour de 10-12 ans, jusqu'autour de la quarantaine.
Et que fait l'hôpital général de référence de Panzi pour encadrer ce jeune ou venir en aide à ce jeune qui subisse de violences basées sur le genre?
D'abord, nous devons savoir que nous avons le modèle de prise en charge holistique, c'est-à-dire que nous allons de la prise en charge pas seulement médicale, en collaboration avec la Fondation Panzi, qui est notre institution sœur, nous pouvons offrir la prise en charge psychologique, l'accompagnement psychologique, que ce soit pour les victimes eux-mêmes, ou alors les membres des familles ou des communautés. Nous étendons en fait l'accompagnement. Nous avons la possibilité aussi de faire la réinsertion socio-économique, qui est aussi une très grande plaque tournante, surtout dans les cas des violences basées sur le genre, mais aussi la partie légale, le pilier légal, qui va nous permettre de faire en fait un accompagnement juridique et judiciaire pour accompagner en fait les victimes dans différents cas. Et ça, c'est la réponse. Mais nous avons aussi, en fait, un grand, grand pilier en termes de prévention dans le cadre, en fait, de l'éducation communautaire, la sensibilisation, pour faire comprendre, en fait, à la communauté que des agissements de telle ou telle manière, l'impact que ces agissements ont sur la vie des personnes, ont sur la qualité même, en fait, de tout ce qui peut être comme relation dans la communauté, que peut être comme production de la communauté et développement de la communauté. Et en fait, ça, c'est une grande plaque tournante qui permet aussi de regarder la question des violences basées sur le genre chez les jeunes femmes ou les femmes mariées par rapport à la masculinité positive, par rapport à tout ce qui peut être comme coutume rétrograde. Tout ça, en fait, c'est des points et des sujets que nous abordons dans le cadre de la sensibilisation en impliquant les leaders communautaires, les différents leaders religieux et, en fait, tout le monde dans la communauté, les intellectuels, tout le monde est impliqué pour pouvoir lutter contre ces violences basées sur le genre.
Vous avez parlé de la réinsertion des personnes victimes de violences basées sur le genre. Quelles sont les activités que vous menez sur terrain pour que ces personnes puissent retrouver leur dignité?
Parmi les activités, nous avons plusieurs types d'activités. Parmi les activités pour les tout jeunes, nous avons d'abord la scolarisation.
Oui.
Qui est très importante, en fait, surtout pour les jeunes qui vont aller, tous les jeunes mineurs qui vont aller même dans les mines, donc de moins de 18 ans, je dis, qui vont se retrouver dans les mines, qui vont se retrouver dans la rue, n'est-ce pas? Tout ça, en fait, nous avons la possibilité, via certains de nos projets, de pouvoir offrir un repas et l'école, de payer les frais scolaires de ces jeunes jusqu'à un certain niveau. C'est vrai que vous allez comprendre que c'est un défi, un grand défi de taille, surtout en termes de finances, parce que ce n'est pas évident de commencer depuis la première année, par exemple, jusque 6 ans après. Nous avons plus des activités, des formations aussi en métier pour les jeunes adolescents d'un certain âge, autour de 15 ans, 16 ans, jusqu'à 18 ans, pour qu'ils soient assez autonomes et puissent se débrouiller dans la vie. Nous avons en fait d'autres activités telles que les mutuelles de solidarité, les associations villageoises d'épargne et des crédits. Sur base en fait de quelques projets qu'on a, on va pouvoir donner des microcrédits pour des activités génératrices des revenus. On va essayer d'encourager tout ce qui est comme entrepreneuriat chez les jeunes, pour en fait rendre autonomes tous ces jeunes hommes et femmes, en fait, qui ont besoin de cela pour pouvoir encore retrouver leur dignité dans la communauté. Donc, je veux dire que c'est tout ça, en fait, qui est fait de manière globale. Le défi est de taille, parce que le financement, il pose parfois problème et on va pas peut-être atteindre tout le monde. Le nombre ne sera pas vraiment en fonction de la demande. Mais on essaye vraiment de faire ce qu'on peut par rapport à ça.
Le défi est de taille et le financement pose problème. Alors, que fait l'État pour vous accompagner dans toutes ces initiatives?
C'est là où, en fait, nous sommes en train de mener des plaidoyers au niveau de l'État pour que l'État s'approprie réellement, en fait, tous ces programmes. Ce sont des programmes sur le plan social qui sont normalement dans les obligations de notre État de couvrir. Tous ces jeunes qui sont dans la rue sont sous la responsabilité de l'État. C'est les jeunes congolais qui ont besoin, en fait, d'avoir tous les atouts possibles et pouvoir aider le pays à aller de l'avant. Donc ça, c'est un grand plaidoyer jusque-là comme nous sommes en train de mener. C'est vrai qu'il y a, en fait, des propositions ici et là, des accords mais on attend encore les matérialisations des choses.
Vous avez un message d'encouragement à lancer à toute personne qui subit les violences basées sur le genre, et surtout les jeunes dames qui font le sexe de survie. Avez-vous un message pour eux?
À toutes ces personnes, de savoir déjà que la première des choses, qu'elles ne sont pas seules, qu'il y a beaucoup de personnes autour d'elles chez qui elles peuvent se confier, qui peuvent aider, des structures qui peuvent leur venir en aide, déjà les écouter. Ça, c'est très important, et qu'elles ne gardent pas le silence. Parce que c'est ça qui va plus tuer, c'est ça qui va encore plus, en fait, les détruire si elles continuent à s'enfermer. Comme je le disais, il y a plusieurs initiatives au niveau de la province, au niveau de la République, et même déjà avec le FONAREV. Il y a plusieurs, en fait, programmes qui vont être mis en place pour pouvoir être à l'écoute de toutes ces personnes, pour pouvoir les orienter et essayer de travailler avec elles pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'elles puissent sortir de cette situation. Parce que vraiment, je crois que 9,5 fois sur 10, aucune d'elles ne veut de cette vie-là ou ne l'a choisie. Souvent, c'est des vies imposées. Et ça, c'est très important qu'elles comprennent qu'on est en train de réfléchir sur des solutions. Et il y a déjà des solutions qui sont déjà en train d'être trouvées et qu'il faudrait qu'elles puissent en parler et venir auprès des différentes structures qui peuvent appuyer.
Docteur Nema Rukungu Nadine, je rappelle que vous êtes gynécologue obstétricienne, médecin directeur adjoint de l'hôpital général de référence de Pandi. Nous vous disons merci d'avoir répondu à toutes nos questions.
Merci aussi.
Okapi, oh.
Après ce voyage à l'est du pays, rentrons à Kinshasa. Sur place, Jeff Opela reçoit pour nous au téléphone Lamine Diop, expert en projet digital à l'ONG RAIES, qui travaille avec l'UNESCO pour la mise en place de l'application Hello Ado. Il nous parle de l'apport de son application dans la lutte contre les VBG. On écoute.
Monsieur Lamine Diop, bonjour. Étant expert en projet digital, pourquoi avoir créé cette application Hello Ado?
Ok, il faut savoir que la création de l'application Hello Ado est partie d'un constat et d'un besoin chez les jeunes. Mm-hmm. Vous savez, en fait, les jeunes ont un faible niveau de connaissance en tout ce qui a en rapport avec la santé sexuelle et reproductive de manière globale, parce qu'étant jeune, l'information ne circule pas assez dans nos différentes communautés en Afrique de l'Ouest et du Centre. Donc, il y a aussi ce besoin de confidentialité, ce manque de confidentialité. On est dans un contexte africain. On peut avoir beaucoup de mal à avoir confiance en une personne pour lui poser certaines questions en rapport avec la confiance, avec la sexualité, parce qu'on a peur au fait que les informations puissent être rapportées à d'autres personnes pour que ça puisse nous nuire ou nuire à notre réputation au sein de nos quartiers. Il y a aussi l'autre constat aussi, c'est le taux de pénétration des smartphones en fait chez les jeunes. On voit que maintenant, très tôt, même en étant enfant, on accède très tôt au smartphone, c'est-à-dire au téléphone et tout. Et l'autre constat aussi, c'est qu'en fait, il y a la crainte du jugement. Les jeunes, en fait, ont peur, en fait, qu'ils soient jugés quand ils posent des questions ou quand ils cherchent des informations sur la santé sexuelle et reproductive. L'autre souci aussi que les jeunes ont toujours eu et qu'ils ont toujours remonté, c'était la difficulté dans l'identification des structures qui pourraient les prendre en charge en cas de problème en rapport avec la santé sexuelle et reproductive, mais aussi des problèmes en rapport avec les droits, tous les droits en fait, qui tournent autour de la sexualité, de la santé sexuelle et reproductive, et bien au-delà. Et c'est dans ce cadre, en fait, c'est ce qui nous a poussé, ce qui a poussé l'UNESCO, le GRAE, à travailler dans la mise en œuvre d'une application mobile qui s'appelle Hello Ado. Et c'est là, en fait, c'est ce qui a poussé vraiment à sa création. Et il faut comprendre que Hello Ado a été conçu sur la base de ces constats remonté par les jeunes dans les différentes activités, dans les différents cadres.
Mais en quoi cette application est-elle importante pour le jeune?
Vous savez, en fait, en ce moment, en 2024, les jeunes, en fait, et même les moins jeunes, ont développé un réflexe. Tellement, en fait, notre usage des réseaux sociaux et de l'Internet, en fait, est passé à un certain niveau. Quand on a un problème de santé, notre premier réflexe, c'est de ne pas aller voir, en fait, un professionnel de santé directement, c'est de ne pas en parler autour de nous. mais c'est de faire nous-mêmes en fait nos propres recherches, c'est-à-dire on part sur Internet, faire des recherches et aller en fait sur plusieurs endroits en fait et faire des recherches. Et le problème en fait c'est qu'il y a que à chaque fois en fait qu'on part faire ces recherches, on tombe pas en fait forcément sur une bonne information ou bien une information qui nous concerne nous-mêmes en fait selon l'endroit où on vit. Donc par exemple l'idée c'est que l'application de jeunes hommes en fait par exemple qui est sur Hello Ado, l'idée en fait c'est qu'il a quand il aura un problème, qu'il puisse entrer dans l'application et puisse en savoir plus sur le problème en question. Donc l'idée en fait c'est que l'application va augmenter son niveau de connaissance sur sa santé de manière globale, mais aussi sur son bien-être. Parce qu'en fait, sur l'application, on a plusieurs fonctionnalités. On a la fonctionnalité qui donne de l'information. On a la fonctionnalité qui permet en fait de géolocaliser des lieux de prise en charge. On a aussi la fonctionnalité chat. C'est-à-dire qu'en fait, le chat est, sachant que le chat est anonyme. Donc, par exemple, le jeune homme qui a des soucis de santé, il peut rechercher des informations lui-même. Il peut aussi poser des questions en fait de manière anonyme sur le chat de l'application. Donc là, ça permet en fait que le jeune pourra de manière autonome chercher des informations.
Oui, monsieur Lamine Diop, parlez-nous un peu de l'application Hello Ado. Comment fonctionne-t-elle?
L'application Hello Ado, en ce moment en fait, qui est juste disponible seulement en fait sur Android, mais la version iOS sera disponible d'ici la fin du mois. En fait, l'application Hello Ado, une fois téléchargé, on a plusieurs types de contenu. C'est-à-dire en fait qu'on a des vidéos, qu'on y a en fait des images, on y a aussi des textes qui sont disponibles sur l'application. Maintenant, ces images et ces vidéos concernent plusieurs thématiques en rapport avec la santé des jeunes et leur bien-être de manière globale. Donc, une fois en fait qu'on entre sur l'application, on peut avoir beaucoup plus d'informations sur sa santé et sur son bien-être et même la communication qu'on peut avoir avec les autres. Mais aussi, il y a un autre volet qui permet en fait de géolocaliser des centres ou bien des lieux de prise en charge en cas de problème, que ce soit des problèmes d'ordre juridique, mais aussi des problèmes en rapport avec la santé et même des problèmes en fait qui peuvent aller vraiment de la prise en charge de manière globale, de problèmes qui sont beaucoup plus larges. Donc en fait, on a ces deux fonctionnalités. Et l'autre fonctionnalité qu'on a sur l'application aussi, c'est la fonctionnalité chat. La fonctionnalité chat permet en fait que les jeunes puissent discuter entre eux et ce, de manière vraiment anonyme et sans jugement de valeur. Donc le jeune pourra non seulement chercher des informations qu'il veut sur l'application, trouver des centres de prise en charge les plus proches de sa localité en utilisant la géolocalisation, mais aussi pour avoir accès à un chat 100% anonyme où il peut poser des questions sans crainte de jugement ou vraiment des craintes en fait pour sa confidentialité.
Faut-il avoir une connexion Internet pour l'utiliser?
Non. Pour utiliser l'application, on n'est pas obligé d'avoir une connexion Internet. Une fois, en fait, parce qu'il y a le mode offline et il y a plusieurs contenus qui sont disponibles sur l'application en mode hors connexion. Donc, en fait, on n'est pas forcément obligé de l'avoir. Et voilà. Une fois, au moment du téléchargement, on a besoin d'Internet. Mais après, pour l'utilisation active au quotidien, on n'a pas forcément besoin d'Internet pour l'utiliser l'application.
Mais maintenant pour le femme déplacée, comment cette application peut-elle venir en aide aux femmes déplacées, par exemple ici chez nous à Goma, par exemple qui vivent dans des conditions inhumaines, sans connexion ni téléphone Android?
En fait, nous voulons vraiment positionner l'application Hello Ado comme un outil pour les différentes parties prenantes. Vous savez, en fait, par exemple, au niveau des femmes déplacées, il y a des organisations qui travaillent avec eux. L'idée, c'est qu'en fait, ces organisations puissent vraiment utiliser l'application Hello Ado, que cette application soit un outil qui leur permet, en fait, de faire le pont, être utilisé par ces organisations et que ça puisse, en fait, servir les différentes couches de la société. Par exemple, quand on est dans des zones, en fait, comme Goma, où on n'a pas de connexion, l'idée, c'est qu'en fait, les organisations ou bien les gens qui vont intervenir dans ces zones puissent utiliser l'application et vraiment en fait avoir tout le contenu de l'application, parce qu'on a des contenus qui sont vraiment diversifiés et très 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 illustrés, de manière en fait que pour comprendre ce qu'on veut vraiment mettre en avant ou bien ce qu'on veut vraiment en fait faire comprendre à la personne, on n'a pas forcément besoin en fait de partir à l'école ou tout ça. Donc en fait c'est comme ça en fait que ça pourra servir aux personnes qui sont dans des situations ou bien dans des zones où on n'a pas de connexion. Toutefois, il faut comprendre que en ce moment, notre cible première, en fait, c'est de cibler vraiment les adolescents et les jeunes qui ont accès à Internet. Et l'application, en fait, cible en priorité les ados et jeunes de 18 à 24 ans principalement, et par extension de 18 à 35 ans, qui ont accès à un smartphone, qui peuvent avoir en fait des informations et un accès à Internet. C'est très important.
Parce que nous parlons de jeunes, comment faire participer ces jeunes dans la lutte contre les violences basées sur le genre, hein?
La violence, c'est à plusieurs niveaux. Et parfois, en fait, c'est des choses avec lesquelles on peut grandir dans nos différentes sociétés. Et même sans savoir qu'on est dans le cadre de la violence ou d'une quelconque violence. Donc, la clé de voûte pour vraiment, en fait, pour vraiment aider nos jeunes et vraiment changer les comportements, c'est une bonne éducation. Et c'est justement à ce niveau que l'application se positionne. Je donne un exemple d'idée de sujet comme le consentement. Le consentement est une notion qui est peut-être assez complexe parfois dans nos différentes sociétés, mais l'idée, c'est de faire comprendre avec des termes et usages, en fait, qui vont utiliser même les mots que les jeunes vont utiliser, pour leur faire comprendre les différentes notions et par ricochet, en fait, lutter contre ces violences. Et tout, en tout cas, doit passer par une bonne éducation. Et cette éducation, c'est justement là où se positionne l'application Eloado, qui est une application par les jeunes. Déjà, en fait, c'est les jeunes qui ont conçu les différents contenus qui y sont. Et aussi, c'est pour les jeunes et que ça puisse, en fait, vraiment les servir.
Oui, monsieur Lamine Diop, vous avez été avec le jeune Congolais dans une formation sur cette application Eloado avec l'appui de l'UNESCO. Quelle est votre impression par rapport à la participation des jeunes Congolais?
C'était 3 jours intenses et vraiment magnifiques. Parce qu'en fait, nous étions avec des jeunes qui vraiment avaient envie, en fait, de servir leurs différentes communautés. Parce que c'est la base, au fait, de tout notre travail, c'est orienté vers nos communautés. Et ces 3 jours ont permis vraiment, en fait, de voir les différents contours de l'application et voir aussi comment mieux servir les jeunes Congolais à travers l'application Eloado. Parce qu'en fait, comment, par exemple, on doit parler aux jeunes Congolais en utilisant l'application Eloado? Quelles sont les thématiques qui intéressent le plus les jeunes Congolais? On a parlé de plusieurs thématiques. On a parlé, en fait, de la protection. On a parlé, en fait, de la précarité menstruelle. On a parlé, en fait, de l'utilisation du préservatif. On a parlé de prise en charge en cas de problème ou de souci de santé. Et ces 3 jours nous ont vraiment permis d'affiner une stratégie qui va permettre, en fait, de mieux positionner l'application Eloado dans les jours à venir.
Voilà, un mot pour atterrir par rapport aux jeunes et par rapport à cette application.
J'encourage vraiment les jeunes à utiliser l'application Eloado et de savoir, en fait, que l'application Eloado est une application qui leur est destinée et que toutes les informations toujours vérifiées, qui sont toujours culturellement justes, c'est-à-dire qu'on prend en compte les valeurs culturelles qui nous dirigent et qu'aussi de manière scientifique, on essaie d'avoir, en fait, il y a un tri qui se fait, en fait, pour que les informations soient toujours fiables et qu'ils puissent vraiment utiliser cette application.
Monsieur Lamine Diop, je rappelle que vous êtes expert en projet digital. Nous vous remercions d'avoir répondu à toutes mes questions.
Merci vraiment à vous pour cette invitation.
C'est la fin de votre magazine Bano Capi du jour qui vous a parlé de l'implication de jeunes dans la lutte contre les VBG. Je suis Sarah Sumbela, Didone Nyangasa Wanyangasa a assuré la mise en onde. L'équipe Bano Capi vous fixe rendez-vous prochainement.